Chapitre 20. Intéresser la génération Y aux écrits d'Ellen White. Dwight K. Nelson. Les écrits religieux d'un auteur féminin, de nationalité américaine et ayant vécu au XIXe siècle dans un environnement rural, peuvent-ils intéresser la génération Y, cosmopolite, urbanisée et sophistiquée du XXIe siècle? Les écrits d'une femme qui écrivait à la lumière des chandelles et qui voyageait en voiture tirée par des chevaux et en train à charbon ou à vapeur, peuvent-ils attirer des lecteurs qui, en quelques nanosecondes, ont la possibilité d'interagir en ligne avec des personnes vivant à l'autre bout du monde et de suivre en direct des événements financiers, politiques, militaires, sportifs, récréatifs, sociaux ou spirituels, 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Cette génération peut-elle trouver dans les écrits d'Ellen White l'inspiration lui permettant d'entretenir une relation personnelle et étroite avec le Christ ? Ces questions sont rhétoriques, car nous pensons en effet que tout cela est possible. Mais la véritable question qui se pose est « comment ?» Comment les écrits d'Ellen White peuvent-ils être proposés et présentés à une génération qui a grandi en entendant très peu parler d'elle à la maison ou à l'église ? Le but de ce chapitre est de tenter de répondre à cette question. Dans certains milieux, il est courant aujourd'hui de définir une génération ou une idéologie en employant les termes « moderne » ou « post-moderne ». Mais en réalité, la différence entre les deux est de plus en plus floue, et la pertinence de ces deux termes est discutable aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que l'Église d'aujourd'hui doit toucher la génération Y, quelle que soit la façon dont on la nomme et on la définit. Comment le don de l'Esprit peut-il avoir du sens pour cette génération de lecteurs ? L'une des façons de procéder pourrait consister à réunir un certain nombre d'arguments et de preuves dans les domaines de l'histoire, de la science, de la santé, etc., pour mettre l'accent sur la véracité des positions d'Ellen White. Ces preuves pourraient théoriquement montrer à cette génération que les écrits d'Ellen White sont fiables et pertinents. Mais ce n'est pas une approche que la génération Y apprécie particulièrement. Comme leurs aînés postmodernes, les jeunes ne croient plus à la notion de vérité avec un V majuscule. Ils préfèrent l'idée de pluralisme et de petite vérité. Tu as ta vérité, il ou elle a sa vérité, et j'ai la mienne. Mais vivons ensemble, sans nous critiquer mutuellement, et en faisant preuve d'acceptation et de tolérance. Ainsi, dans le contexte postmoderne selon lequel il n'y a pas de vérité universelle, ce qui est bien sûr contradictoire, cette stratégie de présentation d'Ellen White ne suffit pas. Et si nous nous efforcions plutôt d'étudier le profil psychologique et social de cette génération, souvent appelée génération Y, et cherchions à entrer en relation avec elle en adoptant sa façon de communiquer et son approche philosophique. La génération Y. Réfléchissons maintenant au profil de la génération Y. Sur le plan démographique, il n'y a pas d'unanimité concernant une date précise. Les membres de la génération Y sont considérés comme étant nés entre le début des années 1980 et le milieu des années 2000. Aux États-Unis, en comptant toutes les personnes allant de l'adolescence à une trentaine d'années, on estime que la génération Y est constituée de 80 millions d'individus, ce qui fait de cette génération la plus importante après celle du baby-boom. En fait, d'après certaines estimations, en 2015 aux États-Unis, la génération Y constitue 50% des personnes actives, et d'ici 2020, ce chiffre devrait monter à 75%. La génération Y est donc une force sociétale qu'il faut prendre en considération, sur le plan économique, social et certainement spirituel. Qui sont ces personnes ? Voici de quelle façon le Pew Research Center les décrit dans une étude menée en mars 2014. La génération Y arrive à l'âge adulte suivant un chemin bien particulier. Ceux qui appartiennent à cette génération sont aujourd'hui âgés de 18 à 33 ans. Ils ne sont généralement pas engagés dans des institutions politiques ou religieuses. Ils sont passionnés par les réseaux sociaux, ils sont accablés par les dettes, ils sont de nature plutôt méfiante, ils ne souhaitent pas se marier rapidement et ils sont optimistes quant à l'avenir. En Amérique, cette génération est très diverse sur le plan racial. Sur bien des plans, elle est très différente des générations précédentes. Et ceux qui appartiennent à cette génération sont aussi très différents de leurs aînés au même âge. L'étude du Pew Research Center montre que 50% d'entre eux se décrivent comme étant indépendants politiquement et 29% affirment ne pas avoir de religion particulière. Ces chiffres sont les plus élevés depuis 25 ans, à savoir depuis que le Pew Research Center mène des enquêtes dans ce domaine. Peu engagé, sans appartenance particulière, accablé par les dettes, peu pressé de se marier et pourtant optimiste concernant l'avenir, il n'est pas étonnant que les membres de la génération Y soient difficiles à cerner dans le domaine des affaires, de l'éducation, de la politique et de la religion. Pourtant, leur profil est loin d'être négatif. David Burstein parle d'idéalisme pragmatique les concernant. Dans son livre « Fast Future », Burstein décrit l'approche de la génération Y des changements sociaux en termes d'idéalisme pragmatique, à savoir qu'ils éprouvent le désir de faire du monde un lieu meilleur et ils ont la conviction que, pour ce faire, il est nécessaire d'établir de nouvelles institutions tout en travaillant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des institutions existantes. Voici ce que déclara Patrick Spener dans le magazine Forbes au sujet de l'optimisme et du champ d'opportunités qu'offre la génération Y dans le domaine des affaires et des finances. Tout le monde semble parler de la génération Y aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement parce qu'il s'agit de la génération la plus importante en raison de sa taille, même si cela y contribue. C'est parce qu'elle nous fascine. Le monde des médias, de la politique et bien sûr du marketing essaie de les toucher. Mais au-delà de l'importance de cette génération, pourquoi intéresse-t-elle tant de monde? C'est en raison de l'approche du « moi », faute d'une meilleure expression, de ses membres, de leur approche étonnamment optimiste de la vie, malgré les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés, et de leur approche peu conventionnelle des différentes étapes de la vie. Cet idéalisme optimiste est une bonne raison pour l'Église d'essayer de toucher cette génération et d'entretenir des relations avec ses membres qui pourraient jouer un rôle majeur en cette période de la fin des temps. Mais cette mission n'est pas facile à mener. La génération Y représente un véritable défi pour l'Église, car les membres de cette génération sont hyperactifs, d'origines très diverses, dépendants des nouvelles technologies, très éclectique en matière de théologie, de moralité et de sexualité. Comment pouvons-nous donc présenter les écrits d'Ellen White à cette génération? Comment le don de prophétie peut-il être expliqué à cette génération, aussi bien dans l'Église que dans la société au sens large, de façon à l'interpeller? Existe-t-il une stratégie particulière que l'Église pourrait mettre en œuvre pour encourager cette génération à lire les écrits de cet auteur féminin du XIXe siècle, dans le but que chacun de ses membres soit béni par sa lecture? Contextualisation. Réfléchissons à la méthode employée par l'apôtre Paul pour transmettre les valeurs des Écritures aux personnes vivant de son temps. Ces deux déclarations publiques, tout d'abord aux personnes venant d'Asie et se trouvant à Lystre, et plus tard aux philosophes athéniens de l'Aréopage, sont les deux seuls exemples du livre des Actes des Apôtres où l'Évangile est prêché à un auditoire exclusivement païen. Dans ces deux exemples, Paul attire l'attention de ses auditeurs en prenant en compte leur aspiration à établir un lien avec le divin, une divinité polythéiste, et il leur présente le Créateur suprême et divin qui transcende les dieux mythologiques de leur panthéon. À Lystre, il leur parle du Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte 14, verset 15. À Athènes, parle ainsi de Dieu. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Acte 17, verset 24. Dans les deux cas, Paul contextualise son message afin de répondre aux besoins spirituels des auditeurs qu'il essaie de toucher. Il décrit en détail la façon dont il contextualise la situation dans la lettre aux Corinthiens. « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, et pourtant, moi-même je ne suis pas sous la loi. Avec les sans loi, comme un sans loi, afin de gagner les sans loi, et pourtant, je ne suis pas un sans loi pour Dieu, je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Paul ne cherche pas à changer le sens de l'Évangile ou à diluer le message divin. Il contextualise le message de l'Évangile en adoptant une stratégie délibérée consistant à s'identifier à la personne ou à l'auditoire qu'il cherche à toucher et convaincre. Ainsi, il ne modifie en rien la révélation divine, mais il traduit la vérité en s'adressant à son auditoire avec un langage socioculturel et linguistique qu'il peut entendre et comprendre. Car comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer la vérité dans leur propre langage ? Romains 10, verset 14. Est-il possible de faire la même chose, de contextualiser la façon dont nous présentons les écrits d'Ellen White à nos contemporains ? L'esprit de prophétie peut-il être présenté de façon efficace à la génération Y en employant son langage socioculturel ? Quelle stratégie est-il possible d'adopter pour que cette contextualisation soit efficace ? Pour qu'une nouvelle génération puisse découvrir avec plaisir les écrits d'Ellen White, nous devons agir dans trois directions. Premièrement, nous devons faire appel à son approche du méta-récit. Deuxièmement, nous devons agir sur son aspiration métaphysique. Et troisièmement, nous devons employer ses méthodes de communication basées sur les nouvelles technologies. Réfléchissons donc à la façon dont ces trois approches peuvent nous guider dans notre façon de présenter Ellen White et ses écrits aux membres de la génération Y. La génération Y et son méta-récit. Le postmodernisme dans son ensemble a rejeté la notion de méta-récit, un grand récit fondateur expliquant le passé, définissant le présent et suggérant le futur, en faveur d'un très grand nombre de récits localisés, reflétant ainsi le penchant du postmodernisme pour le pluralisme. En revanche, la génération Y est imprégnée de la notion de méta-récit depuis toujours. En effet, les membres de cette génération et leurs parents ont grandi avec les histoires de George Lucas, à savoir le réalisateur du méta-récit Le Star Wars. Le monde connaît bien ces films de science-fiction relatant une lutte intergalactique entre les forces du bien et les forces du mal. Cette grande fresque cinématographique s'est enrichie d'un début et d'une fin. Mais en réalité, le méta-récit de Star Wars a non seulement influencé Hollywood et l'industrie du divertissement, mais aussi le monde de la politique, de la littérature et même de la religion. Voici ce que déclare William Romanowski. Les artistes populaires ont trouvé de nombreuses façons de décrire Dieu et le royaume surnaturel. Les artistes peuvent imaginer des mondes allégoriques qui donnent une existence symbolique à l'invisible. Pensez à Narnia de Lewis, la Terre du Milieu de Tolkien. Ou réfléchissez au monde de Star Wars. En inventant des mondes imaginaires, les artistes peuvent affirmer que la réalité ne se réduit pas à ce que nous pouvons appréhender avec nos sens, même si ces productions ne correspondent pas nécessairement à notre expérience de la vie réelle. Que George Lucas ait décrit avec pertinence le royaume surnaturel ou non n'est pas la question. Ce qui est clair, c'est que son récit de guerre intergalactique entre la lumière et les ténèbres est devenu un méta-récit socioculturel populaire. Et comme le suggère Romanowski, le méta-récit imaginaire de Star Wars peut faire comprendre à ceux qui s'y intéressent que la réalité ne se réduit pas à ce que nous pouvons appréhender avec nos sens. C'est cette transcendance qui peut être la clé permettant de convaincre cette génération de prendre en considération les écrits d'Ellen White. En effet, l'un des thèmes majeurs développés par Ellen White dans ses écrits est le méta-récit du grand conflit, la description très forte que fait l'écriture de la guerre fratricide qui éclata il y a bien longtemps dans le royaume de Dieu et qui se poursuit aujourd'hui sur la terre. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Aussi soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, versets 7 à 12. C'est le méta-récit de cette guerre cosmique que décrit Ellen White dans les 5 ouvrages qui constituent la série Conflict of the Ages, le conflit des âges. Dans le dernier volume, The Great Controversy, le grand espoir, elle résume ainsi le méta-récit du grand conflit. Par l'illumination du Saint-Esprit, les scènes du conflit permanent entre le bien et le mal ont été ouvertes à l'auteur de ces pages. De temps en temps, il me fut permis de contempler l'œuvre à différentes époques du grand conflit entre Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché, le premier transgresseur de la loi sainte de Dieu. L'inimitié qu'il, Satan, nourrit contre le Fils de Dieu, il la manifeste contre ses disciples. À travers toute l'histoire de l'humanité, nous trouvons chez lui la même haine des principes de la loi de Dieu, la même politique mensongère par laquelle l'erreur se présente sous les couleurs de la vérité, les lois humaines sous le manteau de la loi de Dieu et le culte de la créature sous celui du Créateur. De siècle en siècle, Satan s'efforce de dénaturer le caractère de Dieu, afin de le faire redouter et haïr plutôt qu'aimer, de discréditer la loi divine et d'annuler son autorité sur les cœurs, et, enfin, de persécuter ceux qui osent résister à ses impostures. Ces agissements sont visibles dans l'histoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs et des réformateurs. Mais comme pour le méta-récit biblique, dans les écrits d'Ellen White, le thème du grand conflit est plus qu'un compte-rendu de l'histoire sainte. C'est aussi le moyen utilisé par Dieu pour transmettre un message d'avertissement concernant le futur proche à l'Église et au monde. Dans le grand conflit final, Satan utilisera la même méthode, manifestera le même esprit et travaillera dans le même but que dans le passé. Ce qui était sera, si ce n'est que la lutte à venir sera caractérisée par une intensité telle que le monde n'a jamais connue. Les actions trompeuses de Satan seront plus subtiles, ses assauts plus déterminés. Il tentera même d'égarer les élus. Marc 13, verset 22. L'Esprit de Dieu m'a permis de découvrir les grandes vérités de sa parole, ainsi que les scènes qui se sont déroulées dans le passé et celles qui se dérouleront dans le futur. Et il m'a été demandé de faire connaître ce qui m'a été révélé, de relater l'histoire du grand conflit dans le passé, notamment de façon à faire toute la lumière sur la lutte qui ne va pas tarder à faire rage dans le futur. Dans ces récits, nous pouvons avoir un aperçu du conflit qui approche. En les lisant à la lumière de la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons découvrir les méthodes utilisées par les méchants et les dangers que doivent éviter ceux qui désirent être trouvés sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-il irréaliste de vouloir faire découvrir le méta-récit majeur de l'Écriture à notre génération post-moderne ? Le philosophe chrétien Douglas Grotius ne le pense pas. La théologie chrétienne, qu'elle soit présentée dans des livres, des articles, des séminaires, des facultés adventistes ou les enseignements et les prédications des églises locales, devrait prendre en compte la fascination post-moderne pour les récits, en parlant de l'histoire de Dieu dans toute sa richesse, sa complexité et sa force. C'est un récit en 4 actes, la création, la chute, la rédemption et la victoire. Mais nous devons présenter ce récit non comme un récit parmi beaucoup d'autres micro-récits donnant du sens à des communautés disparates, mais comme l'histoire cosmique du Créateur lui-même qui, non seulement nous a donné la clé de l'histoire relatée dans l'Écriture, mais est entré dans l'histoire en s'incarnant de façon à nous libérer du péché et de la mort. Dieu est celui qui nous raconte la véritable histoire et la dirige. C'est précisément parce que la génération d'aujourd'hui est passionnée par les récits, comme le montrent les milliards de dollars dépensés chaque année dans le domaine du cinéma, que le méta-récit du grand conflit tel qu'il est relaté dans les écrits d'Ellen White peut intéresser les membres de la génération Y et ses aînés. Ainsi, L'une des méthodes stratégiques permettant d'attirer l'attention de cette génération sur les écrits d'Ellen White consiste à mettre l'accent sur le méta-récit du conflit fratricide cosmique qu'elle décrit de façon si claire. La série Conflict of the Ages, notamment, peut être présentée comme la description de la plus grande de toutes les histoires de la littérature sacrée, histoire qui décrive non seulement la place de cette génération dans l'histoire, mais qui annonce quel rôle jouera cette génération dans les événements à venir. Nous devons exploiter ce que Grotius décrit comme la quête de sens intense et unique du postmodernisme, qui va au-delà même des cultures construites de façon aléatoire. Nous devons parler de ce récit et évoquer la façon dont Ellen White l'aborde. En fait, Ellen White elle-même déclara que The Great Controversy, Le Grand Espoir, était le livre qui devait être lu par le plus grand nombre de lecteurs. Le Grand Espoir devrait circuler largement. Ce livre contient le récit du passé, du présent et du futur. Dans sa présentation des scènes finales de l'histoire de cette terre, il rend témoignage de la vérité avec une grande force. Je souhaite vivement que ce livre soit distribué plus largement que tous les autres que j'ai écrits. Car dans Le Grand Espoir, le dernier message d'avertissement au monde est expliqué plus clairement que dans tous mes autres livres. Ce n'est certainement pas une coïncidence si, un siècle plus tard, cette génération est passionnée par le méta-récit de Star Wars. En raison de cette attirance pour ce récit intergalactique fascinant, cette génération pourrait être intéressée par le livre qu'Ellen White souhaitait voir circuler largement. Ainsi, dans le cadre de toute action stratégique dont le but est d'intéresser cette génération aux écrits d'Ellen White, il importe de distribuer très largement cet ouvrage. Cet article n'a pas pour objectif de définir des stratégies marketing précises, même si quelques suggestions sont faites ci-dessous. Mais il est clair que les écrits d'Ellen White, qui excella à relater le grand conflit de façon à mieux comprendre les vérités divines, doivent être présentés aux membres de la génération Y en prenant en compte leur goût pour les récits. En effet, Ellen White peut leur permettre de comprendre quelle est leur place dans la plus grande saga de toute l'histoire de l'humanité. La génération Y et la métaphysique. Le groupe Barna a récemment publié les résultats d'une étude concernant le profil de la génération Y. De nombreuses choses ont été dites récemment sur ce que les analystes de la société appellent la montée des riens. Cette expression décrit une tendance de plus en plus forte consistant à affirmer que l'on a foi en rien ou que l'on n'est affilié à aucun système de croyance. Cette tendance a en effet été démontrée grâce à un sondage mené par l'Institut Pew Research, indiquant que le nombre d'Américains n'ayant aucune appartenance religieuse est monté à presque 20%, un bond de presque 5% en 5 ans. Dans les mois qui ont suivi, un sondage de l'Institut Gallup a révélé des chiffres similaires. Et plus récemment, en mars 2013, un sondage effectué par les universités UC Berkeley et Duke University a montré que l'affiliation religieuse était à son niveau le plus bas aux États-Unis. Le point commun de toutes ces études est le nombre de membres de la génération Y parmi ces riens. D'après l'étude menée par le Pew Research Center sur la génération Y, environ une personne sur trois, 29%, affirme n'être affiliée à aucune religion. Nous approchons du niveau le plus élevé du désengagement religieux toutes générations confondues depuis que le Pew Research Center mène deux études sur cette question, à savoir 25 ans. Prenons l'exemple d'une autre étude menée par Lifeway Christian Resources. Aujourd'hui, la plupart des jeunes adultes ne prient pas, ne louent pas Dieu et ne lisent pas la Bible, d'après une étude importante menée par un institut chrétien. Si cette tendance se poursuit, la génération Y verra les églises se fermer aussi rapidement que les magasins de General Motors, déclare Tom Rainer, le président de Lifeway Christian Resources. Dans le groupe des 1200 personnes sondées et âgées de 18 à 29 ans, 72% disent être plus spirituelles que religieuses. Plus spirituelles que religieuses. De plus en plus de gens sont déconnectés de toute organisation religieuse, mais pourtant curieux et ouvert à la spiritualité. Voici quelle est la réalité à laquelle l'Église, en tant que religion organisée, doit faire face dans ses tentatives d'établir un lien avec les jeunes adultes de cette génération. En fait, le groupe Barna estime qu'environ 8 millions de jeunes adultes chrétiens autrefois engagés ont abandonné l'Église ou le christianisme. Pourtant, le choix de cette génération de s'intéresser à la spiritualité plus qu'à la religion est une occasion de montrer aux membres de ce groupe à quel point les écrits d'Ellen White sont pertinents. Il est important d'établir un lien entre leur ouverture et leur désir de spiritualité, et les écrits de celle qui écrivit certainement le plus d'ouvrages sur le thème de la spiritualité et de la croissance spirituelle. De son petit livre bien connu, « Steps to Christ », « Le meilleur chemin », à son livre majeur sur la vie de Jésus, « The Desire of Ages », « Jésus-Christ », son commentaire des paraboles, « Christ's Object Lessons », « Les paraboles », ou celui du sermon sur la montagne, « Thoughts from the Mount of Blessing », « Les béatitudes », aucun autre auteur de son temps ou lui ayant succédé n'a abordé de façon aussi complète les thèmes de l'amour de Dieu, de la vie du Christ, du calvaire, de la conversion, de la croissance chrétienne, de la vie de l'esprit, de la sainteté, de la prière, de l'étude de la parole de Dieu, du témoignage chrétien et de la foi. Ses écrits, majoritairement consacrés à la quête d'une spiritualité toujours plus grande, offre une occasion unique pour tous ceux qui ont faim et soif de justice, Matthieu 5, verset 6, de se rapprocher de Dieu. Le temps est donc venu pour l'Église adventiste du septième jour de présenter Ellen White à tous ceux qui n'ont aucune appartenance religieuse mais qui restent ouverts à Dieu et cherchent à le connaître. Les méthodes de la génération Y. Comment les écrits d'Ellen White peuvent-ils intéresser une génération qui ne lit pas ? Ayant été pasteur dans une université pendant 3 décennies, j'ai eu l'occasion de me poser cette question et d'entendre d'autres personnes la poser à maintes reprises. En réalité, la question n'est pas tant de savoir quels ouvrages lit cette génération, mais de savoir si elle lit encore. Étonnamment, la réponse est affirmative. Le site internet Millennial Marketing déclare « La lecture n'est peut-être pas une priorité, mais la génération Y passe plus de temps à lire que les générations précédentes. D'après un graphique interactif surprenant proposé par le New York Times, les personnes ayant plus de 64 ans sont celles qui lisent le plus, à savoir 1h et 24 minutes par jour. Mais les 15 à 24 ans passent en moyenne 50 minutes par jour à lire et à faire d'autres activités. C'est plus que les 25 à 64 ans qui passent juste 32 minutes par jour à lire. Le site indique aussi que, selon une étude menée au Royaume-Uni, le temps passé à se tenir au courant de l'actualité est passé à 72 minutes par jour, alors qu'il était de 60 minutes en 2006. Cette augmentation concerne essentiellement les personnes de moins de 35 ans. Ainsi, il est erroné de dire que la génération Y ne lit pas. Ce qui apparaît clairement, c'est que les jeunes adultes lisent différemment. Millennial Marketing explique. Dans son livre « Grown Up Digital », Don Tapscott parle de Joe Ochea, un étudiant de 22 ans vivant en Floride qui s'apprêtait à aller poursuivre ses études à Oxford. Joe Ochea déclara ceci au sujet de la lecture. « Je ne lis pas vraiment de livres. Je vais sur Google et je mémorise rapidement les informations dont j'ai besoin. Certaines de ces informations proviennent de livres. Mais rester assis et lire un livre de la première page à la dernière page n'a pas de sens. Ce n'est pas une bonne façon d'utiliser mon temps, dans la mesure où je peux obtenir des informations plus rapidement grâce à Internet. Il faut simplement savoir où elles se trouvent. Il faut être un chercheur avisé. La plupart des gens agissent ainsi grâce à Internet, leur ordinateur portable, leur smartphone, leur tablette ou leur liseuse, car ils ont appris l'art de parcourir différents supports. Mais le fait d'avoir l'habitude de parcourir différentes sources est-il un problème aujourd'hui ? Tapscott évoque le bon côté de cette façon de procéder. Je crois que, grâce à Internet, la génération Y parvient à donner plus de sens à un plus grand nombre d'informations que les baby-boomers. Le cerveau des membres de la génération Y peut être capable d'exécuter certaines tâches perceptives plus rapidement et peut garder plus d'éléments en mémoire. Pour gérer toutes les informations disponibles, il faut savoir les parcourir. L'immersion dans le monde numérique a permis à cette génération d'avoir les capacités de le faire. Elle a appris à développer des filtres dont elle a besoin pour faire la distinction entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Une question se pose donc. Comment la façon de procéder de la génération Y en matière de gestion des informations peut-elle influencer l'Église dans son désir de lui faire connaître les écrits d'Ellen White ? Rappelons-nous de quelle façon l'apôtre Paul utilisait le contexte pour proclamer l'Évangile à sa propre génération, essentiellement païenne. Ainsi, ne devons-nous pas aussi adopter le langage des personnes que nous voulons toucher ? Or, si la génération Y aborde les informations de façon visuelle et grâce à des outils électroniques, l'Église ne doit-elle pas utiliser cette méthode pour communiquer avec elle ? Le groupe Millennial Marketing cite l'exemple de Ginny, une étudiante et blogueuse. Même si j'avais l'argent nécessaire pour acheter tous les livres dont j'ai besoin à l'université, la plupart d'entre eux prendraient la poussière sur mes étagères. On pourrait attribuer cela à la capacité d'attention limitée des membres de la génération Y, qui comprennent une pensée en 140 caractères, voire moins. Mais ce n'est pas la raison. Ce qui explique mon désintérêt total pour les manuels est le fait qu'à l'instant même où un livre est publié, il devient obsolète. Depuis que je suis au collège, j'ai accès très rapidement à toutes les informations dont j'ai besoin sur Internet. Et ces informations sont plus précises que celles que je pourrais trouver dans des manuels. De plus, je peux les obtenir gratuitement, ou si ce n'est pas le cas, je vais sur un autre site où elles sont gratuites. Ayant un budget limité et la possibilité d'avoir accès à des ressources gratuites et illimitées, pourquoi m'intéresserais-je à des manuels ? En effet, quel genre de livre pourrait intéresser les jeunes adultes ? Voici de quelle façon le groupe Millennial Marketing définit les livres accessibles à cette génération. 1. Ils sont très visuels, le texte est traité comme un élément graphique, mais avec des illustrations colorées. 2. Le style d'écriture est abordable, non pas simpliste, mais attirant. 3. Le contenu du livre correspond exactement à ce qui est nécessaire, avec des compléments consultables sur Internet. Par exemple, des liens Internet inclus dans le texte et permettant au lecteur d'obtenir d'autres informations, illustrations ou ressources. Le but de cette publication n'est pas de suggérer des critères de publication ou de définir quel type de livre pourrait intéresser la génération Y. Mais le seul moyen de permettre à l'Église de faire découvrir les écrits d'Ellen White aux jeunes adultes est de les contextualiser sur le plan stylistique et de les proposer de façon graphique afin d'utiliser leur langage. Sur le plan visuel, nous devrions proposer une présentation différente de ces écrits majeurs, comme les ouvrages de la série The Conflict of the Ages, allant de The Great Controversy, le grand espoir, à The Desire of Ages, Jésus-Christ. Les livres imprimés, comme les livres numériques, devraient comporter de nombreuses illustrations, des images de scènes de la Bible ou de récits historiques faits par des artistes contemporains, par exemple, ainsi que des photos de certains sites, et des liens Internet en bas de page permettant d'approfondir les sujets, de mieux comprendre le texte ou de consulter des cartes interactives. Comme le souligne le groupe Millennial Marketing, le fait de traiter le texte de façon graphique, en adoptant de nouvelles polices de caractère ou en utilisant des encadrés, peut plaire à la génération Y. Les livres audio plaisent à tout âge, et une mise en scène audio de la série Conflict of the Age serait certes une entreprise coûteuse, mais permettrait aussi d'intéresser les lecteurs et auditeurs de la génération Y. L'un des atouts de l'Église adventiste lui permettant de présenter Ellen White et ses écrits à la fois à la communauté des croyants et au monde est les sites qui lui sont dédiés, www.egewritings.org et www.ellenwhite.org. La possibilité d'accéder à ces sites 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est un facteur non négligeable permettant de la faire connaître. Cependant, aucun contenu, aussi passionnant soit-il, ne peut intéresser des jeunes adultes si la présentation est dépassée. Il serait intéressant de constituer une équipe de jeunes adultes engagés sur le plan spirituel et ayant des compétences en matière de nouvelles technologies, afin de revoir ces sites. Cela permettrait de toucher la génération Y à laquelle l'Église s'intéresse. Même si son contenu est passionnant, la présentation et le graphisme du site www.ellenwhite.org sont démodés. Un bref aperçu des sites internet qui attirent aujourd'hui des visiteurs de tout âge suffit à montrer qu'il serait nécessaire de refaire les sites présentant Ellen White à la fois au grand public et à l'Église. Aujourd'hui, Internet est le meilleur moyen permettant à l'Église d'établir un lien avec la génération Y. Nous devons solliciter les personnes les plus compétentes et embaucher les web designers les plus créatifs pour moderniser l'interface entre la génération Y et les écrits d'Ellen White. Ainsi, l'Église doit avoir le désir de mettre en contexte l'esprit de prophétie si elle veut toucher une nouvelle génération grâce aux écrits d'Ellen White. Ce ne serait pas trahir les écrits inspirés, mais plutôt obéir aux instructions de l'Écriture selon lesquelles nous devons parler le langage du monde pour faire connaître le Christ. Voir 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Cela importe-t-il ? Il y a quelques années, la marque Kellogg utilisa un nouveau slogan pour faire attirer de nouveau un groupe de consommateurs vieillissants qui avaient grandi avec les cornflakes mais qui s'en étaient lassés et, au fil du temps, avaient choisi des céréales plus exotiques. Le slogan disait simplement « Goûtez-les de nouveau, pour la première fois ». Comment peut-on faire de nouveau quelque chose pour la première fois ? Ce n'est pas possible, bien sûr, sauf si l'on décide de vivre une nouvelle expérience avec quelque chose qui appartient à notre histoire passée. Goûtez-les de nouveau pour la première fois. Ce slogan pourrait-il s'appliquer aux écrits d'Ellen White ? Certainement, pour toucher non seulement les jeunes adultes, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents. L'Église d'aujourd'hui est-elle remplie d'adultes ayant décidé qu'ils avaient grandi et qu'ils n'avaient plus besoin de lire les livres classiques de leur enfance ? Après tout, qui désire manger les cornflakes des grands-parents pour le petit-déjeuner aujourd'hui ? Roger Dudley et Des Cummings Jr. ont essayé de faire le lien entre le développement spirituel et la lecture des écrits d'Ellen White. Leurs conclusions sont stupéfiantes. Dans une enquête effectuée auprès de plus de 8200 membres de l'Église adventiste en Amérique du Nord, 20 catégories de la vie spirituelle ont été évaluées. Il y avait notamment une question sur la fréquence de lecture des écrits d'Ellen White. Prêtez attention à ces résultats étonnants. 82% des lecteurs réguliers des écrits d'Ellen White considéraient avoir une relation étroite avec Jésus, contre 56% pour les personnes ne les lisant pas, une différence de 26%. 82% des lecteurs réguliers des écrits d'Ellen White pensaient être au clair avec Dieu, contre 59% pour les autres. Les lecteurs d'Ellen White étaient 24% plus nombreux à être engagés dans des actions d'évangélisation et de service que les autres. Et 82% des lecteurs d'Ellen White étudiaient la Bible chaque jour, contre 47% pour les autres. En fait, dans chacune des 20 catégories, les chiffres concernant les lecteurs des écrits d'Ellen White étaient toujours plus élevés que pour les personnes ne les lisant jamais. Dans leur conclusion, Dudley et Cummings soulignèrent « Il est rare qu'une étude montre une tendance si marquée. Dans l'étude sur la croissance de l'Église, concernant chaque point relatif à l'attitude personnelle ou la mise en pratique dans le domaine spirituel, les membres qui étudient les livres d'Ellen White ont des scores plus élevés que les membres qui ne les lisent jamais ou occasionnellement. Goûtez-les de nouveau pour la première fois. En effet, il est indispensable que l'Église définisse des stratégies nouvelles permettant à ceux qui n'ont encore jamais lu les livres d'Ellen White de les découvrir. Et il est tout aussi important que l'Église contextualise à nouveau ses ouvrages pour ceux qui ne les lisent plus. Goûtez-les de nouveau pour la première fois. C'est ce que disait Jésus au sujet des prophètes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 16. Il n'est donc pas étonnant qu'il nous invite à les goûter encore et encore. Résumé. Cette génération peut-elle s'intéresser à Ellen White et à ses écrits ? Est-il possible de les rapprocher ? Il semble donc que ce soit possible, mais c'est un oui nuancé. Pour pouvoir intéresser cette génération, nous devons procéder à un changement de méthodologie. En effet, on ne peut espérer des résultats différents si l'on fait sans cesse la même chose. Étant donné le goût et la connaissance de cette génération pour les métarécits semblables à celui du grand conflit, étant donné son attirance pour la spiritualité plus que pour les religions organisées, étant donné sa préférence pour les médias graphiques et interactifs plutôt que pour les ouvrages dits « dépassés », il est essentiel que l'Église d'aujourd'hui ait recours à une méthode de contextualisation qui permettra à la génération Y de découvrir Ellen White et ses écrits qui peuvent la guider vers Jésus. Nous sommes nombreux à penser qu'il n'y a pas d'auteur plus christocentrique et plus à même d'attirer cette génération que la femme dont les écrits nous semblent être une manifestation de l'esprit de prophétie. Il est grand temps que nous invitions cette nouvelle génération à les goûter de nouveau pour la première fois.